Salut les gens qui se bougent. C'est reparti pour des extraits inspirants d'un livre génial. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre très spécial puisqu'il s'agit d'un livre qui a énormément inspiré Tim Ferriss. Et du coup, je l'ai lu puisque c'est un des livres recommandés à la fin de la semaine de 4 heures. Et ce livre, c'est Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. Alors Thoreau, c'est un personnage très intéressant, très particulier. C'est un philosophe américain du 19e siècle. Il est né en 1817, il est mort en 1862, si je me rappelle bien. Et c'est notamment un des abolitionnistes les plus fervents du 19e siècle. C'est quelqu'un qui vraiment haïssait l'esclavage des Noirs et qui a été d'une grande influence pour justement l'émancipation des Noirs au 19e siècle aux États-Unis. Et notamment, il a écrit un ouvrage sur la désobéissance civile, sur le fait que parfois, quand les lois sont profondément injustes, eh bien, il faut savoir y résister. C'est pas parce qu'une loi a été votée que forcément, il faut l'accepter. Et au-delà de ça, Henri David Thoreau, il avait une philosophie de la vie très pratique et très intéressante qu'on peut résumer par l'art de la simplicité volontaire, ou on pourrait dire de la sobriété heureuse, qui rejoint beaucoup celle des stoïciens et même des bouddhistes zen. Et vous allez voir qu'il avait des vues très, très, très pratiques là-dessus. En gros, comment on pourrait résumer la simplicité volontaire? Je veux dire, déjà, ces deux mots résument bien le concept. Il s'agit de simplifier sa vie en réfléchissant à certains fondamentaux qu'on tient pour acquis et en les remettant en cause, et du coup en choisissant des choses qui sont plus simples pour pouvoir davantage profiter de la vie. Vous voyez qu'on retrouve pas mal de points communs déjà dans la philosophie de la semaine de 4 heures. Et je vais vous lire des passages qui vont vous faire comprendre justement à quel point ça reste aujourd'hui ultra pertinent, et ça, je vais vous dire, ça envoie du steak, vous allez voir. Donc là, l'édition que j'ai, c'est une traduction en français du début du 20e siècle, donc c'est du français un petit peu lourd par rapport à nos standards, donc je vais l'adapter en temps réel pour que ça soit un peu plus léger. Là en fait, il discute de le fait d'avoir une maison, plutôt un abri dans les différents types de civilisations, et notamment il va comparer les Indiens. Donc là, il écrit, je crois que c'est dans les années 1840-1850, donc il y a encore pas mal d'Indiens qui vivent à peu près, enfin d'une manière quand même assez différente des Américains occidentaux à l'époque, et donc il compare un petit peu leur mode de vie, notamment leurs habitations. Walden, en fait, c'est l'histoire vraie Henry David Thoreau, qui a décidé d'aller vivre 2 ans dans la forêt, justement pour pratiquer cette simplicité volontaire. Et en fait, bon, l'histoire de Walden, ça se passe pendant 1 an, mais c'est ces 2 ans qui sont résumés en une année. Donc, je vous lis le passage. À l'état sauvage, toute famille possède un abri valant les meilleurs et suffisant pour ses besoins primitifs et simples. Mais je ne crois pas exagérer en disant que si les oiseaux ont leur nid, les renards leur tanière et les Indiens leur tente, il n'est pas dans la société civilisée moderne plus de la moitié des familles qui possèdent un abri. Dans les grandes villes où prévaut la civilisation, le nombre de ceux qui possèdent un abri n'est que l'infime minorité. Le reste paie pour ce vêtement le plus extérieur de tous, devenu indispensable été comme hiver, un tribut annuel qui suffirait à l'achat, donc il veut parler d'un loyer, un tribut annuel qui suffirait à l'achat d'un village entier de tentes indiennes, mais qui pour l'instant contribue au maintien de sa pauvreté, sa vie durant. Je ne veux pas insister ici sur le désavantage de la location comparé à la possession, mais il est évident que si l'Indien possède son propre abri, c'est à cause du peu qu'il coûte. Tandis que si l'homme civilisé loue en général le sien, c'est parce qu'il n'a pas le moyen de le posséder. Et c'est à peine s'il a le moyen de le louer. Mais on va répondre, il suffit à la personne civilisée pauvre de payer cette taxe pour avoir un abri qui est un palais comparé à celle de l'Indien. Un loyer annuel lui donne droit aux avantages des progrès réalisés par les siècles. Appartements spacieux, peinture et papier, chauffage, pompe en cuivre, serrure à ressort, une cave, etc. etc. Mais comment se fait-il que celui qui jouit de tout ça est souvent un civilisé pauvre, alors que l'Indien qui ne la possède pas soit riche comme un Indien? Si on affirme que la civilisation est un progrès réel dans la condition de l'homme, et je crois qu'elle l'est, mais que les sages seulement utilisent leurs avantages, il faut montrer qu'elle a produit de bien meilleures habitations sans les rendre plus coûteuses. Or, le coût d'une chose est le montant de ce que j'appellerais la vie requise en échange. Oui, il a raison. Le coût d'une chose, bien sûr, vous pouvez le donner en argent, mais cet argent, vous devez passer un certain temps à l'acquérir. Donc, vous pouvez convertir l'argent que vous devez pour acheter quelque chose, y compris votre maison, y compris pour la louer, en temps de vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on compare souvent les impôts en termes de temps de vie. Si vous avez 50% d'impôts, ça veut dire que vous travaillez pour le gouvernement de janvier à fin juin. Donc, Thoreau continue, il dit « Pour acheter une maison, il faudra amasser une somme pendant 10 à 15 années de la vie du travailleur. » Ça, c'était à l'époque. Maintenant, c'est plutôt 15, 20 ans, voire plus. Hein. « Même s'il n'a pas de famille. De sorte qu'en général, il lui aura fallu passer plus de la moitié de sa vie avant d'avoir gagné sa tente. » Imaginons qu'au lieu de ça, il paie un loyer. C'est tout simplement le choix le plus douteux entre les deux mots. Et Thoreau pose cette question absolument magnifique. Il dit « L'Indien eût-il été sage d'échanger sa tente contre un palais contre la moitié de sa vie ?» Est-ce qu'il est sage pour un Indien d'échanger sa tente contre une maison moderne, et encore là c'était maison du 19e siècle, hein, contre la moitié de sa vie pour la payer ? Alors maintenant, même si on paye sa maison pendant 20 ans, c'est plutôt un tiers de notre vie que la moitié. Mais quand même, tout le monde se dit « oui, de toute façon, il faut que je loue une maison, il faut que je paye une maison, etc. » Et donc du coup, il faut que je travaille pour ça. Mais là, Thoreau, il pose le questionnement autrement. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas une manière plus simple de faire ça et de profiter de la vie autrement? Et ensuite, Thoreau, il va mettre en pratique cette réflexion puisqu'il va se construire lui-même une cabane dans les bois de Walden, et il va jusqu'à donner le coût complet de cette maison, et il a une réflexion qui est absolument savoureuse. Bon, il dit voilà, je possède une maison avec tel et tel détail qu'il a construit à peu près lui-même. Bon, il donne les coûts, alors après c'est des dollars de l'époque, donc après ils font convertir pour avoir le coût, pour avoir une idée du coût aujourd'hui. Mais voilà, il dit voilà, j'ai reconnu que l'homme qui souhaite un abri peut s'en procurer un pour la durée de la vie à un prix ne dépassant pas celui du loyer annuel qu'il paie à présent. Donc, il dit, voilà, en gros, en se débrouillant un peu, en faisant les choses par soi-même et en étant simple, ça coûte pas très cher. Si j'ai l'air de me vanter, je m'en excuse en vous disant que je me vante pour l'humanité plutôt que pour moi-même et que ni mes faiblesses, ni mes inconséquences n'affectent la véracité de mes dires. Et donc, en fait, le coût de construction de sa cabane, c'est 28,12 $. Donc, c'est des dollars de l'époque. Bien sûr, aujourd'hui, ça coûterait beaucoup plus cher. Et il dit, au collège de Cambridge, donc, le simple loyer d'une chambre d'étudiant à peine plus grande que la mienne est de 30 $ par an. Donc, ce qu'il dit, c'est que ça coûte par an plus cher que ce que ça lui construit à bâtir. Je ne peux m'empêcher de penser que si nous montrions plus de véritable sagesse à ces écarts, non seulement moins d'éducation serait nécessaire, mais la dépense pécuniaire contraire à une éducation disparaîtrait en grande mesure. Les commodités que réclame l'étudiant à Cambridge ou ailleurs lui coûtent à lui ou à quelqu'un d'autre un sacrifice de vie 10 fois plus grand qu'elle ne le ferait avec une autre organisation. Donc en gros, il dit que là, rien que le coût que doit consentir, l'endettement que doit consentir l'étudiant pour ses études va justifier déjà en partie le besoin qu'a l'étudiant de faire des études pour gagner un salaire supérieur. Et là, on a aussi une réflexion très intéressante que d'ailleurs je partage dans mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », qui est qu'il y a quelque chose dont on ne parle jamais, qui est le coût d'opportunité de faire des études supérieures. Parce que si, admettons, vous décidez de faire un bac plus 5 au lieu d'un bac plus 2, donc vous faites 3 ans d'années supplémentaires, ce qu'on vous dit pas ou pas assez, c'est que ok, vous allez sans doute gagner un salaire supérieur, même si ce n'est pas garanti. Je donne aussi tous les chiffres au début de « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Mais pendant 3 ans, vous n'allez pas gagner de salaire, alors que vous pourriez le gagner si vous arrêtez vos études après un bac plus 2 et que vous trouvez un emploi. Et du coup, pendant 3 ans, ça fait 3 ans de perte, sans compter que 3 ans où vous ne touchez pas de salaire, 3 ans où vous payez des études en plus, 3 ans où vous auriez pu aussi investir votre argent, 3 ans où vous auriez pu acquérir de l'expérience. Enfin, ça fait vraiment 3 ans de perdu qui vont créer un coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est le coût que vous avez par rapport à une autre option que vous auriez choisi, que vous auriez fait de gagner de l'argent autrement. Enfin, par exemple, si entre un choix A et un choix B, vous prenez le choix A et qui vous rapporte 8 000 € et que dans le choix B, si vous aviez pris le choix B, ça vous aurait rapporté 10 000 €, le coût d'opportunité du choix A est de 2 000 €. Et au-delà de ça, il y a aussi un facteur donc, dont finalement parle Thoreau, parce que c'est la différence qui fait finalement entre l'Indien et l'homme civilisé, comme il dit, ça a la même racine, c'est que plus vous avez un job qui est prestigieux, et souvent c'est lié à un diplôme plus prestigieux, plus vous allez être tenté, voire même vous sentir obligé d'avoir des dépenses qui vont avec ce statut. Quand vous êtes médecin, même si foncièrement vous en foutez de vous balader en deux chevaux ou dans une voiture pourrie, c'est compliqué pour vous en tant que médecin de vous balader dans une voiture pourrie. Vous allez vous sentir obligé, beaucoup plus qu'une infirmière, d'acheter une voiture un peu plus luxueuse parce que ça fait partie de votre statut, que tout le monde s'attend à ça et que les gens vont trouver ça bizarre si vous vous baladez dans une voiture justement qui est pourrie. Alors que l'infirmière, qui elle a fait beaucoup moins d'études que vous, qui donc a commencé à gagner sa vie beaucoup plus tôt, et qui certes gagne beaucoup moins que vous, mais elle n'a pas besoin de dépenser autant. Donc après, je ne dis pas que c'est forcément négatif de vivre dans un meilleur confort, je dis simplement que c'est aussi un coup d'opportunité qu'on ne voit pas quand on passe un diplôme supérieur. Ensuite, il dit « Si je considère mes voisins, les fermiers de ma ville, au moins aussi à leur aise que les gens des autres classes, je constate que pour la plupart, ils ont peiné 20, 30 ou 40 années pour devenir les véritables propriétaires de leur ferme, qu'en général, ils ont hérité avec des charges ou acheté avec de l'argent emprunté à intérêt. Et nous pouvons considérer un tiers de ce labeur comme représentant le coût de leur maison. Mais qu'ordinairement, en général, ils n'ont pas fini de payer leur ferme. Et parfois, les dépenses de la ferme sont plus importantes que la valeur de la ferme, au point que, du coup, la ferme devient une lourde charge sans qu'il manque de se trouver un homme pour en hériter en disant qu'il la connaît à fond et que ce ne sera pas un problème. En m'adressant aux contrôleurs fiscaux, je m'étonne d'apprendre qu'ils sont incapables de nommer d'emblée 12 personnes dans la ville qui sont en possession de fermes sans charge. En fait, l'homme qui a bel et bien payé sa ferme grâce à son travail est aussi rare que tout le voisin peut le montrer du doigt. Je me demande s'il en existe seulement 3 dans ma ville. Donc là, à travers ce passage et puis finalement dans toute la première partie du livre, Thoreau, il fait une critique extrêmement pertinente parce qu'en gros, il dit voilà, le problème des fermiers, c'est qu'ils vont passer 20, 30 à 40 ans de leur vie à travailler pour payer leur ferme. Vous voyez un petit peu comment ça boucle en fait. C'est comme quand il dit les étudiants, ils doivent passer un diplôme supérieur en partie pour pouvoir payer leurs études. Et il dit qu'il veut montrer un petit peu la vacuité de tout ça et le fait qu'on s'enferme dans des schémas récurrents qui se bouclent sur eux-mêmes sans véritable réflexion et qu'on se rend nous-mêmes esclaves de nos besoins et qu'on pourrait juste apprendre à avoir des besoins plus simples et du coup à avoir davantage de temps pour profiter de la vie. Parce qu'il dit finalement, où est la logique dans le fait que le fermier passe l'essentiel de sa vie à travailler pour payer sa ferme, alors que moi, je peux construire une maison pour un coût qui est inférieur à ce qu'un étudiant loue pour l'année la chambre qu'il a besoin pour étudier. Donc vous voyez à quel point cette réflexion est pertinente, en tout cas elle l'interpelle et qu'elle reste toujours d'actualité aujourd'hui. Et voyez aussi à quel point, pour ceux qui ont lu la première partie de « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », bah ça se connecte finalement à cette réflexion sur ce coût d'opportunité des études. Et finalement, une réflexion dont on ne vous parle jamais et qui pourtant est salutaire à avoir. Parce que finalement, avec cette réflexion, on peut quand même décider de faire comme avant, mais au moins on le fait de manière plus éclairée. Après, personnellement, quand j'ai lu Walden, ça m'a vraiment interpellé, ça m'a vraiment inspiré. C'est pas pour autant que je serais d'accord pour aller vivre dans une cabane dans les bois. Par contre, ça m'inspire pour simplifier les choses, pour essayer de comprendre, de détecter quand je me mets dans des situations qui bouclent sur elles-mêmes. Quand je décide de travailler plus pour me payer des choses qui, au final, me servent à travailler plus ou qui sont finalement peu importantes, qui sont des choses que je vais faire par habitude. Et c'est pour ça, par exemple, c'est Walden notamment, entre autres, avec d'autres livres, qui m'a inspiré à me débarrasser de 95% de mes possessions parce que je me suis rendu compte que l'essentiel des objets que j'avais achetés et que j'accumulais, finalement, prenait la poussière dans des armoires et que je ne m'en servais jamais et que j'avais gagné de l'argent pour acheter des choses qui étaient inutiles. Et ça rejoint finalement une citation que je donne dans mon livre, qui parle de quelqu'un qui parle de la course des rats, puisqu'il voilà, c'est Nigel Marsh qui dit « Il y a des milliers et des milliers de gens qui travaillent pendant de longues et difficiles heures à des boulots qu'ils haïssent pour gagner de l'argent afin d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. » Vous voyez aussi à quel point là, c'est un cycle qui se met en route sans réflexion et qu'au final, on se retrouve à se boucler sur soi-même sans que ça nous apporte davantage de bonheur. Donc voilà, cette vidéo est un peu spéciale et sans doute plus philosophique que d'habitude, mais c'est aussi parce que ce livre est très philosophique, Walden ou la vie dans les bois. En tout cas, vous l'avez compris, je vous recommande fortement sa lecture. Achetez une édition moderne avec une traduction récente, ce sera plus sympa. Et voilà, juste pour continuer sur mon expérience personnelle, voilà, et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui finalement. Le but, ce n'est pas d'être extrême, en tout cas extrême, de pousser la pensée de taureau aussi loin que d'aller de se dire « Ok, bah, du coup, je vais aller construire une cabane dans les bois et je vais être content. » Mais de se dire, de prendre ça comme une inspiration pour essayer de simplifier les choses, pour essayer de détecter quand on se met dans des boucles comme ça qui sont stériles finalement et de se poser la question « Comment je pourrais simplifier les choses et de quoi je pourrais me débarrasser aujourd'hui pour devoir moins travailler et profiter davantage de la vie pour arrêter de courir après toujours plus et simplement me concentrer sur l'essentiel.
Hey ! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, c'est bien. Allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.